OK, enquête de Radio-Canada, OK, qui révèle que dans les 20 dernières années, 340 entraîneurs du sport amateur au Canada ont été accusés de délits sexuels. 222 de ces 340-là ont été condamnés. Et ils ont fait au total plus de 600 victimes, des mineurs. Et alors là, la question évidemment qui se pose, d'abord, je trouve que les chiffres sont pas mal gros, là. Mais la question qui se pose, évidemment, moi, qu'est-ce que tu veux, les parents là, qui m'écoutaient, combien de fois on a confié à un entraîneur le sort de nos enfants? On fait confiance, on l'amène à l'aréna de bonheur, puis on le laisse entre les mains d'adultes. Et dans bien des cas, d'ailleurs, c'est des parents bénévoles qui sont pas toujours faciles à trouver, on le sait. Alors, t'as ça, tu veux évidemment que des parents s'en occupent, que ce soit de l'équipe de soccer, que ce soit de l'équipe de hockey. Puis en même temps, ben tu regardes ces chiffres-là puis tu te dis, dans certains cas, c'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance et qui vont malheureusement agresser des enfants. Alors, on va parler avec la ministre responsable du sport dans un instant. Elle est déjà en attente, me dit-on, donc elle va entendre l'entrevue qui suit avec Alain Fortier. Alain Fortier qui a porté plainte contre son ancien entraîneur en 2015. Le procès a eu lieu en septembre dernier. Le verdict est attendu. Il a porté plainte contre Yves Leclerc, qui a été son entraîneur et qui est accusé d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle. Monsieur Fortier, Alain Fortier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Monsieur Fortier, résumez-nous d'abord ce qui vous est arrivé là, pour que les gens comprennent bien.
Ben, en réalité, c'est ça. J'ai commencé à jouer dans une équipe de soccer dans les années 91-92. Très rapidement, je suis devenu capitaine de l'équipe. Suite à ça, l'entraîneur faisait beaucoup d'activités hors du soccer, si vous voulez. Donc, on allait souvent faire des visites, soit des navires de guerre, des concours de casse-tête, toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai commencé à travailler pour lui sur une de ses terres.
Et en une de ses quoi, vous me dites, M. Fortier?
Un de ses terrains. Il y avait un terrain puisque... on faisait l'entretien, les mondages, les arbres, donc tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler pour lui. Et lors d'une des premières activités qui est arrivée, c'était au Centre des fonctions d'urgence en mer à Québec. Donc, c'est une grosse piscine. Je vais prendre ma douche à la fin avec d'autres de mes collègues, si on veut. Mm-hmm. Et suite à ça, le coach rentre une première fois dans il tire le rideau, il rentre, il tente de m'agresser, prend mon pénis. Je reste figé, je sais pas quoi faire. Finalement, je réussis à prendre le savon qui est au mur et lui mettre dans les yeux et me sauver. Donc, ça a été la première fois qu'il a essayé de m'agresser. Sauf que par la suite, vous savez que l'entraîneur et le capitaine de l'équipe qui ne se parlent pas trop, ça aide pas au niveau des relations dans l'équipe. Donc, assez rapidement, il est revenu à la charge en disant « Excuse, je ne recommencerai pas ». Finalement, je lui ai fait une confiance une deuxième fois. Un petit peu plus tard, lorsque j'étais sur son terrain, justement, il s'est essayé encore une nouvelle fois. Donc, je l'ai repoussé et à un moment donné, j'ai compris que si j'acceptais pas ses agressions, ben je pourrais plus travailler pour lui parce que j'étais rendu que je travaillais quasiment temps plein pour lui. Et il m'a fait comprendre que si j'acceptais pas ses agressions sexuelles, ben à ce moment-là, ben je me retrouvais sans travail à cette époque-là. À cette époque-là, à 10 $, c'était très, très bien payé. Donc, j'ai eu comme une coupure qui s'est faite au niveau de mon cerveau, une dissociation, ce qui fait que j'ai enduré ça pendant plusieurs années et j'ai enfoui ça au plus profond de moi-même. Pour jamais en parler. J'ai toujours voulu garder ça secret jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, je sente le besoin de faire quelque chose avec ça.
Et c'est là que vous avez décidé de porter plainte?
C'est ça. Suite à des événements qui sont arrivés dans ma vie, j'ai compris que ce qu'on ne règle pas va avoir tendance à se reproduire. Donc, à ce moment-là, je me suis présenté au poste de police en décembre 2015 avec tout ce que j'avais. J'avais un témoignage, j'avais un enregistrement audio, j'avais des photos, j'avais toutes sortes de choses. J'allais voir les policiers, j'ai dit ben voici ce que j'ai à raconter. Si vous voulez aller de l'avant, tant mieux. Moi, mon but présentement, c'est juste de fermer le dossier, de passer à d'autres choses. C'est là que l'enquête a commencé. Jusqu'à temps qu'on arrive au procès, là, qui est le 4 septembre de l'année passée, où que le procès, ça a été 4 jours de procès, dont 2 jours où j'ai témoigné.
Qu'est-ce que ça vous a fait, toutes ces agressions? Comment ça vous a changé?
Ben c'est sûr qu'à l'intérieur, ça détruit tout, hein? C'est beau, l'image du vase cassé, c'est un peu ça, c'est que t'as beau tirer un vase à terre, essayer de le réparer, mais tu vas toujours voir les séquelles, les conséquences. C'est sûr que ça joue beaucoup sur la perte de confiance, ça joue beaucoup sur l'intégrité de la personne, sur ton questionnement. Moi, j'ai été agressé par un homme, donc je suis homosexuel. Pourquoi qu'est-ce que je veux en dedans de moi que moi je comprends pas? Fait que surtout à l'âge où j'avais, qui était à 13, 14 ans, à ce moment-là, ben ça commence à jouer beaucoup sur ton influence, fait que tu te poses beaucoup de questions. Ce qui fait que ça amène des comportements, des fois, qui sont un peu au niveau sexuel, qui sont un peu étranges. Donc, c'est ça. Puis avec les années, ben tu penses que c'est pas si pire que ça, mais finalement, tu te rends compte que ça a beaucoup plus de conséquences que ce que tu pensais. Ouais.
Est-ce que vous auriez aimé avoir quelqu'un autour de vous vers lequel se tourner pour vous protéger? Ou est-ce que vous en avez peut-être parlé à vos parents ou vous avez préféré ne pas leur en parler? Comment vous avez géré ça avec les adultes autour en qui vous devriez normalement avoir confiance?
Ben moi j'en ai pas parlé. Écoutez, déjà se faire agresser par un homme, on a peur du jugement des autres, parce que souvent c'est ça, hein, ils vont penser quoi? T'sais, fait qu'on a peur du jugement des autres, on sait pas trop quoi faire avec ça non plus, on n'est pas à l'aise. Puis il faut se mettre dans le contexte aussi qu'un entraîneur de sport, souvent il y a plus de liens où il joue un rôle plus important des fois même que tes parents. Hein, parce que quand j'étais jeune, j'écoutais pas nécessairement mes parents, mais mon entraîneur, je l'écoutais parce que c'était une personne qui est significative, c'était un leader pour nous autres. Donc, d'arriver, de le dénoncer, de dire ça, écoutez, c'était quasiment impensable. Là. C'est pour ça que les hommes, en réalité, souvent, ça va prendre plusieurs années hein, qu'ils dénoncent. C'est parce que c'est honteux. Hein.
Vous disiez que vous aviez 13 ou 14 ans au moment des agressions. Là, est-ce qu'on parle d'une équipe d'élite ou on parle d'une équipe de soccer, là, mettons, du B, du C, du A? De quoi on parle?
C'est ça, on parle du local, on parle du plus du B ou du C. Moi, j'étais dans l'élite avant, puis justement, j'avais changé de l'élite parce que j'étais tanné. Je voulais aller plus dans le local pour me promener un peu moins à travers la province. Donc, c'est là que j'ai atterri dans cette équipe-là.
Donc, c'était un parent, non, d'un des joueurs?
Non.
Non?
Non, c'est un entraîneur comme ça qui s'était proposé, puis qui était là, je sais pas depuis combien d'années. Mais non, il n'y avait pas de lien, familial avec aucun des joueurs, là.
Est-ce qu'il a reconnu ses torts, Yves Leclerc?
Malheureusement, non. Puis c'est souvent ça que la victime recherche. Hein? Moi, c'est ce que je recherchais. Là. Si mon agresseur avait été dire, écoutez, je l'ai fait, je me reconnais coupable, déjà là, pour moi, ça aurait été quelque chose de bien. T'sais, c'est souvent ce qu'on cherche. Donc, s'il ne veut pas le reconnaître comme ça, bon, on doit prendre le processus judiciaire pour le faire. Je souhaite que le juge, en bout de ligne, arrive et dise, oui, Alain, je te crois. Je crois ton témoignage. Puis ce qui est difficile en agression sexuelle, c'est que c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, le fardeau de la preuve est immensément grand. Mais peu importe le résultat, moi, j'étais prêt à le faire. Puis j'avais besoin de faire pour me libérer. Donc, pour le reste, qu'est-ce qui va arriver le 13 mars? Je ne sais pas. Je souhaite qu'il soit reconnu coupable. Mais pour le reste, j'ai aucun contrôle là-dessus.
Je vous trouve très courageux d'avoir porté plainte à Alain Fortier puis d'accepter comme ça de parler publiquement. Je pense que vous donnez l'exemple et je comprends que ça ne doit pas être évident, là, mais je salue le courage que vous avez.
Merci, c'est très gentil.
Et bonne chance pour la suite des choses. Okay? J'espère que le verdict sera celui que vous attendez, mais on ne sait jamais avec la justice, là, mais je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Okay?
Merci beaucoup. Puis ce qu'on parle au niveau du sport, ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour protéger nos jeunes. J'espère que, là, j'ai entendu que la ministre va être là par la suite.
Oui, justement.
J'espère qu'on pourra prendre acte pour être capable de mieux les protéger, nos enfants, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux.
Vous pouvez l'écouter à l'instant. Je m'en vais à elle. Merci, M. Fortier. Bonjour, Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la condition féminine. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous me permettrez, M. Drainville, tout de suite, à mon tour, saluer le courage de M. Fortier. Effectivement, c'est un exemple, puis on espère que les jeunes pourront trouver moyen de dénoncer, parce que si on veut faire avancer les choses, évidemment, il faut dénoncer.
Est-ce que vous trouvez que nos jeunes sportifs sont assez protégés présentement, Madame la ministre?
Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a des actions qui ont été mises de l'avant, mais il reste encore beaucoup à déployer. Pour faire en sorte, on a une plateforme, entre autres, au gouvernement qui s'appelle sportbien-être.ca, où on donne des outils, où on donne des moyens pour les parents, pour les intervenants, pour les jeunes, pour comprendre le phénomène de la délinquance sexuelle ou de l'intimidation ou de la violence et tout ça. On a aussi une ligne avec Sport Aide où les bon, quiconque qui suspecte un délit sexuel peut dénoncer, peut aller trouver des ressources, mais il faut encore en parler, il faut que ce soit déployé, il faut que les gens trouvent une oreille, trouvent une façon de pouvoir en parler.
Là, vous avez tweeté « Je prends au sérieux les enjeux liés à la violence, au harcèlement, à l'intimidation dans le sport. En tant que ministre, ma priorité sera celle d'assurer aux athlètes un environnement sain et sécuritaire dans leur milieu respectif. » Qu'est-ce que vous allez faire concrètement là pour assurer un milieu sain et sécuritaire pour nos athlètes, pour nos enfants?
Oui, il y a différentes choses sont déjà amorcés, mais des différentes choses qu'on va poursuivre et qu'on va mettre encore plus de l'avant. Entre autres, cette semaine, je suis en discussion avec mes homologues des territoires et des provinces. On va discuter de ces enjeux-là. On a aussi...
Donnez-moi un exemple concret, Madame la ministre. Les gens qui nous écoutent, là, ils veulent savoir, OK, vous avez une ministre avec vous qui vous parle. Demandez-lui qu'elle nous donne un ou deux exemples très concrets de ce qu'elle va faire pour protéger nos enfants qui font du sport.
Ben c'est de la formation. Je vous parlais tantôt de reconnaître les signes qui pourraient nous laisser présager qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir des comportements déviants. Ben déjà de les reconnaître, c'est une façon de pouvoir les contrer. Alors je vous disais de déployer à plus grande allure. On a une chaire de recherche aussi avec le docteur Parent qu'on a vu dans le reportage de Radio-Canada hier. Ça aussi on le pousse de l'avant. Je pense qu'il faut que ce soit documenté. Il faut qu'on comprenne le phénomène, d'où ça émane, c'est quoi le modus operandi, et là on va pouvoir plus être à même d'intervenir puis de réagir.
Je lisais dans l'enquête de Radio-Canada là, qu'il y a beaucoup de nos fédérations sportives, donc qui supervisent notamment les entraîneurs, qui ont absolument pas les moyens de vérifier les antécédents judiciaires des coachs. Est-ce que ça devrait pas commencer par ça? Est-ce que la ministre que vous êtes ne devrait pas justement réunir les fédérations sportives et leur dire comment est-ce qu'on pourrait mettre ensemble, comment on pourrait mettre en place, dis-je bien, un mécanisme qui vous permettrait, comme fédération, de vérifier les antécédents pour pas qu'on ait peut-être un système par fédération, mais un système dans lequel l'ensemble de nos fédérations sportives pourraient aller chercher de l'aide, là?
Oui, depuis 2017, déjà, on exige des fédérations la politique de vérification des antécédents judiciaires, mais définitivement, il faut trouver une façon que ce soit plus accessible à des plus petites fédérations, puis de l'information aussi, comment elle va véhiculer. Et oui, il y a encore des actions à poser, puis il y a encore des choses à faire avancer.
Est-ce que vous reconnaissez que depuis 2017, les fédérations doivent vérifier les antécédents, mais plusieurs d'entre elles n'ont pas les moyens de le faire?
Oui, ben c'est ça. Ce que je vous disais, c'est qu'on a encore à déployer des ressources et des moyens pour faciliter le tout.
Alors, est-ce que vous allez vous en occuper? Comment vous allez régler ce problème-là?
Oui, on s'en occupe, bien sûr, on s'en occupe, M. Drainville.
Vous allez vous en occuper comment?
Bien, comme je vous le disais, en poursuivant les travaux, en continuant les recherches avec la chaire de recherche, en travaillant avec les fédérations. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait déjà aussi les intervenants des fédérations. Vous savez, en 2018, ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale qu'il fallait se doter d'une politique, que le financement sera pour les fédérations sera attaché à cette politique-là. Alors, il faut tout mettre ça en place et ben, c'est de donner des ressources et des moyens pour que ça puisse s'exécuter.
Là, en terminant, vous avez un point de presse à 14 heures cet après-midi. Est-ce que ça concerne cette question-là ou c'est sur autre chose?
Non, ça, c'est plutôt un guide de gestion de situations qui peuvent être problématiques dans les arénas avec le hockey. Donc, un outil qui va pouvoir servir, que ce soit aux parents, que ce soit au personnel d'aréna, que ce soit aux entraîneurs, aux officiels, pour pouvoir gérer une situation problématique dans le hockey.
Donc, des parents, par exemple, qui chahutent, qui chialent après l'arbitre, qui deviennent un peu agités, ou même violents dans certains cas, verbalement ou autrement. Donc, vous allez rendre public cet après-midi des moyens pour essayer de calmer le jeu un peu, c'est le cas de le dire.
Exactement. C'est un guide qui va pouvoir justement accompagner tout le monde dans des situations comme celle-là.
Très bien. Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et au sport et aux loisirs. On espère que vous allez revenir avec des choses un petit peu plus concrètes là pour ce qui est des enfants qu'on doit protéger, OK? Les enfants sportifs, là, je vous ai laissé aller, là, mais j'aimerais sûr que vous reveniez avec des choses un peu plus concrètes. Ça marche?
Oui, merci.
Merci.